Bonjour à tous. Dans 12 jours, 2020. Eh oui, 2020. En pensant à nos centenaires hébroïciens, qu'ont-ils connu à leur naissance en 1920? Eh bien, nous allons vous le raconter. À la fin de la Première Guerre mondiale, un mouvement d'euphorie et de libération envahit la France. Le peuple français redécouvre le plaisir de s'amuser et toute la société retrouve un intérêt pour la culture. Les années 1920 deviennent les années folles, synonymes d'un bouillonnement et d'une effervescence. Tout cela, 2 ans après l'armistice du 11 novembre 1918. Alors que la France continue à se reconstruire grâce aux capitaux étrangers et notamment américains, la croissance économique revient peu à peu. Les Français retrouvent le goût de vivre. Un vent radicalement nouveau semble souffler sur le pays. Paris constitue l'épicentre de ce frémissement joyeux et festif qui pointe à l'aube des années 20. Les artistes, les peintres et les intermittents du spectacle réinvestissent le devant de la scène, poussés par une nouvelle dynamique venue des États-Unis. Ils révolutionnent le milieu culturel. Les années folles se caractérisent par de nombreuses nouveautés, le jazz, la radio, le cinéma et l'apparition de l'électroménager, balbutiant dans les foyers favorisés. À Paris, le quartier Montparnasse symbolise ce renouveau où le plaisir et l'exubérance sont érigés en mode de vie. C'est l'époque de Joséphine Baker, Charlie Chaplin, Charlot, l'art déco, l'art moderne et les nouveaux couturiers, Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Paul Poiret et Jean Patou. À l'inverse de ces réjouissances, le monde ouvrier évolue peu. Malgré un chômage à 2%, il ne bénéficie pas de la croissance et reste presque sans aucune protection sociale. Que de changements advenus en un siècle, on ne peut que le constater. Et la crise de 1929 met fin aux années folles. Attendez-vous à savoir, comme disait ma consoeur Geneviève Tabou il y a, oulala, eh bien les dernières nouvelles de 1920, avec Sylvie pour les artistes, Guy pour l'interview d'anciens d'Azimia, Marie-Claude pour la haute couture, une chronique sur les femmes par Michel, et commençons par le premier micro-trottoir.
Si je vous dis les années 1920, ça vous évoque quoi?
Je crois qu'il y avait la Première Guerre mondiale.
Alors on était sortis de la Première Guerre mondiale.
Ah oui, c'est vrai. Hein? Bah oui, du coup, bah oui.
Bah pour moi, ça m'évoque juste après la Première Guerre mondiale, les années folles, l'envie de se faire plaisir, de danser, de se rencontrer, de partager. Mmh. Donc c'est ça que ça m'évoque dans un premier temps.
Bah déjà la guerre, ça c'est sûr, parce que moi j'ai mes arrière-grands-parents qui ont fait la guerre, qui a été tué à la guerre de 1914-15. Et ça me rase, oui, et puis l'évolution qui commençait, l'évolution du travail qui commençait à prendre forme. Après, vous avez les, je sais pas, tout l'architecture et tout ça qui commençait à être, on découvrait les arts et tout ça, et puis on recommençait à vivre après la guerre 14. On commençait, et puis bon, bah après, bon, il y a eu la guerre qui va arriver, 1940, mais pour l'instant, je pense que les gens, ils ont la guerre 14. Après 1920, ben, ils ont commencé à revivre et ils se sont dit bon ben on va repartir, mais là il y a eu la guerre de 40 qui est arrivée derrière.
La belle époque.
Oui, d'accord. Voilà. Et quoi d'autre?
Bah écoutez, entre deux guerres, mon Dieu, la France et le monde entier se relevaient un petit peu de périodes un petit peu difficiles. Mmh. On reprenait goût à la vie, c'est une période de grande, comment dirais-je, découverte.
Je sais pas si la vie était mieux que maintenant, plus agréable, plus facile, plus dur, je sais rien du tout. Franchement, j'ai pas d'idée.
La voiture, la Ford T, c'est, je crois, créé dans les années 1920 ou 1930 par là. Les acteurs, alors là, je dirais Charlot, mais je suis pas sûr à 100%. Après, c'est tout, je suis pas trop spécialiste de ces années. En fait.
Bon, après, c'est un peu, je pense que c'était après la crise financière, voilà, c'était après. Bon, voilà, grosso modo. Et en France, je pense qu'on a commencé à parler justement de la sécurité sociale, mais c'était la première version, en fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, voilà.
Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une chronique sur le monde du spectacle durant les années folles, qui désigne, comme on l'a dit, une période d'intense activité sociale, culturelle et artistique. Commençant en 1920 et se terminant en 1929, le même phénomène se produit aux États-Unis avec le Roaring Twenties ainsi que le reste du monde occidental. Une nouvelle génération rêve d'un monde nouveau. On s'empresse de lui proposer de nouvelles griseries sur fond de musique. L'influence américaine sur le Paris des années folles est considérable, avec le chimie, le jazz, le charleston. Joséphine Baker, habillée d'un simple pagne de banane, dansera sur un rythme endiablé de ce charleston dans la Revue Nègre, qui connaîtra un vif succès. Ainsi, à Paris, les nouvelles danses, le music-hall, l'opérette, la radio, le cinéma s'imposent. Le music-hall remplace le café-concert avec Maurice Chevalier et Miss Tinguette. On va au Casino de Paris, au concert parisien. Le music-hall remplace donc le concert avec Maurice Chevalier et Miss Tinguette. On va au Casino de Paris, au concert parisien, au concert Mayol. Les attractions se succèdent à un rythme rapide avec des décors et des costumes fantaisistes. Ces productions artistiques donnent à Maurice Chevalier et Miss Tinguette une célébrité internationale. La carrière de Maurice Chevalier est liée au Casino de Paris, symbole du music-hall, concurrencé par le Moulin Rouge. Le music-hall parisien constitue, dans l'entre-deux-guerres, le spectacle par excellence. Miss Tinguette partage alors l'affiche avec Maurice Chevalier, étoile montante de ce music-hall à l'américaine. Quant à Miss Tinguette, en 1923, elle est la vedette du grand bal d'ouverture du Copacabana Palace à Rio de Janeiro. Devenue gloire internationale, elle chante « Ça c'est Paris, mon homme ». Albert Villemetz lui écrira de nombreuses chansons et revues aux Folies Bergères et aux États-Unis. Durant ces années folles à Paris, les quartiers de Montmartre et de Montparnasse abritent ces prestigieux cafés. Les plus célèbres et les plus fréquentés comme la Coupole, le Dôme, la Rotonde, mais aussi la Closerie des Lilas. Le plus célèbre cabaret à la mode, le Bœuf du Toit, reçoit le pianiste Jean Wiener. Le monde parisien assistant à ces divertissements ne constitue qu'une infime partie de la population, surnommée l'élite. Mais une culture populaire naît parallèlement à cette culture des élites. Le music-hall donne également, dans ce milieu populaire, avec l'exotisme du Moulin Rouge. La radio a un rôle prépondérant. En passant des disques de 78 tours, les débuts de Maurice Chevalier et Miss Tinguette, qui reprend des airs populaires, leur permet d'être connus du plus grand nombre. D'où leur succès international. Cette période a donc été rythmée par des musiques, des danses entraînantes, des spectacles originaux et variés, avec des artistes talentueux, fougueux et charismatiques. S'ensuit une petite chanson de Maurice Chevalier, joyeuse et réconfortante. Bonne écoute à vous.
En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis. De l'héritage de ma tante, un autre que moi se serait dit. Je m'en vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir en gaieté, je me suis tué. À répéter, dans la vie faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas, ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera, je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Je rentre à Paris, mais mon notaire m'annonce votre père plein d'attention. Vous colle un conseil judiciaire et 25 louis par mois de pension. Il ajoute, je ne vois plus personne dont vous puissiez être héritier. Faut travailler, prendre un métier, c'est le conseil que je vous donne. Je lui dis, comment vous voudriez que je vole le pain d'un ouvrier? Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Dans la vie, faut pas en faire, toi tu ne t'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça.
Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Roche des Archives départementales de l'Eure. Bonjour monsieur.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer de façon succincte, pouvez-vous vous présenter et présenter les missions des archives départementales ?
Alors, les archives départementales ont pour but de collecter, de classer, de décrire, de conserver et puis d'assurer la communication des archives du département, donc des administrations départementales, de l'État dans le département, des collectivités, mais également des archives privées, d'entreprises ou d'associations qui ont tous un lien avec le territoire et les habitants de l'Eure.
Voilà. Et pour les archives municipales, c'est le même principe ?
Alors non, puisque Évreux, par exemple, dispose, comme d'autres communes de l'Eure, d'un service d'archives municipales constitué avec une équipe d'archivistes. C'est le cas à Évreux, c'est le cas à Vernon ou à Gisors, par exemple. Et donc là, ce sont des services autonomes.
D'accord. Je crois que ça a été créé il y a très longtemps.
Oui, puisque notre naissance remonte à la Révolution, effectivement.
D'accord. Et avant ça, c'était les paroissiens, c'était quoi les paroisses?
Alors,
qui étaient constituées,
effectivement, dans les paroisses avaient déjà des archives qui sont souvent devenues les parties constituantes des archives communales. Nous, en fait, les archives départementales, leur création, ont hérité des archives des administrations d'Ancien Régime, donc bailliage, sénéchaussée, etc. Et puis également des archives ecclésiastiques au moment de la nationalisation des biens du clergé lors de la Révolution. Donc c'est là où se trouvent les documents les plus anciens qui concernent l'histoire du département.
D'accord. Pour la période qui nous intéresse, donc on a dit les années folles, les années 1920-1930, que se passait-il dans le département de l'Eure et la ville d'Évreux ? Avez-vous quelques informations sur cette période ?
Voilà. L'événement le plus marquant, c'est la sortie de la guerre.
Oui,
voilà.
Absolument.
L'armistice, bah, tout le monde le sait, il a été signé le 11 novembre 1918. Mais ce qu'on n'a peut-être parfois pas en tête, c'est que les soldats ne reviennent pas du jour au lendemain. La démobilisation prend beaucoup de temps. Il y a des soldats qui restent sur le front pendant toute l'année 1919, et même au-delà, puisque la France décide d'occuper une partie de l'Allemagne, de la Rhénanie, précisément encore au début des années 20. Donc les soldats ne rentrent qu'en coup de goutte. Première chose, par exemple, le 7e régiment de chasseurs, qui est le gros régiment d'Évreux, ne fête son retour solennel qu'en septembre 1919.
Avec... C'est le quartier Tilly dont vous parlez ?
Tout à fait, c'est le régiment qui est installé à Tilly. Oui.
À Tilly, d'accord. Excusez-moi, je vous interromps.
Voilà, donc il y a une grande parade en ville, des arcs de triomphe en bois qui ont été posés dans différentes rues d'Évreux, et puis tout un cortège de jeunes écolières déguisées en alsaciennes qui viennent accueillir les soldats et puis célébrer aussi le retour de l'Alsace-Lorraine dans le giron français.
D'accord. Et donc, pensant à cette période-là, la population a fortement baissé, elle a changé, les activités ont changé. Est-ce qu'il y a eu des conséquences importantes ?
Oui, mais la première conséquence, comme vous venez de le dire, elle est démographique. Puisqu'il y a à peu près 50 à 60 000 Eurois qui sont partis faire la guerre, il y en a un sur cinq qui ne revient pas.
Ah oui.
Donc déjà, ça pèse notamment dans les territoires ruraux du département par la mort des hommes, par l'absence d'enfants qui est devenue impossible, même si cette baisse démographique, elle était déjà présente dès le début du siècle, liée à l'exode rural notamment, et puis à la baisse de la natalité, qui est un phénomène général en France à l'époque.
Et en termes d'activité, est-ce qu'il y a eu des changements fondamentaux dans les activités, que ce soit paysannerie ou commerce ou industriel du département ?
Alors, non, le paysage économique du département, il reste globalement le même, avec des zones rurales où l'agriculture est fort développée, et puis des zones plus industrielles autour de la vallée de l'Andelle, de la vallée de la Seine, où les industries textiles ou métallurgiques ou liées à la tannerie, par exemple, sont toujours présentes. Après, c'est plutôt dans le détail qu'on va voir des évolutions. Par exemple, l'absence des hommes pour s'occuper des récoltes pendant la guerre, a fait émerger non seulement le travail féminin, mais aussi un début de mécanisation de l'agriculture. Les industries se sont un petit peu concentrées, et puis il y a aussi des effets indirects. Évreux, qui était un centre administratif important, c'était déjà la préfecture du département, mais ce rôle s'est accru avec la guerre, parce qu'elle a été le centre de plusieurs administrations créées spécialement pour la période de la guerre. Donc elle a accru ce rôle de capitale administrative du département.
D'accord. Mais le département est resté dans les mêmes périmètres, c'est ça que je veux dire. Il n'a pas évolué, il n'a pas changé de contour.
Il n'y a pas eu de changement administratif des frontières du département ou quoi que ce soit. Non.
Et sur le plan politique même, alors, parce que là, on aborde la Troisième République. Oui. Donc, est-ce que sur le plan politique, dans l'heure, il y a eu des changements? Comment ça s'est passé?
Mais il y a ce même changement qui arrive au sortir de la guerre et qui arrive un petit peu partout en France, aux élections législatives notamment de 1919, où le prestige des anciens combattants fait que beaucoup d'entre eux sont élus à l'Assemblée. On qualifie cette Assemblée de 1919 de chambre bleu horizon, pour insister rappeler l'uniforme des soldats. Et donc c'est une Assemblée qui penche quand même à droite. Et effectivement, il y a un basculement du département, du Conseil général de l'Eure également vers la droite, où la grande figure qui émerge, qui est élu député, qui est élu président du département, c'est le lieutenant-colonel Prosper Josse, qui a servi pendant la guerre, tout en continuant à fréquenter l'Assemblée nationale, où il essaie de défendre quand même les intérêts du soldat et du futur ancien combattant. Donc c'est la grande figure de proue politique du département au sortir de la guerre.
Et Aristide Briand est arrivé plus tard ou dans cette période-là?
Alors, Aristide Briand est déjà là.
Il
est déjà là, mais dans l'Eure, il n'existe pas politiquement. C'est pas son port d'attache politique.
D'accord.
L'Eure, et notamment Cochrel, Coulbeck-Cochrel, c'est plutôt sa maison de campagne ou son havre de paix où il peut se retirer, être un petit peu au calme. C'est un endroit qu'il a découvert totalement par hasard avant-guerre. Il participait à une partie de chasse, il s'est perdu, il débouche d'une forêt à Houlbecq-Cochrel, et puis ça lui plaît, il se réfugie à l'hôtel sous un pseudonyme, pour rester incognito, et puis ça lui plaît tellement qu'il revient, et puis qu'il finit par acheter tout un tas de propriétés, de bois, et puis il en fait vraiment sa résidence de campagne, au point qu'effectivement il souhaitera y être enterré lorsque le destin fatal l'attendra à son tour.
De cette période-là, quels sont les documents que vous avez donc récoltés? Comment vous les avez récoltés? D'abord, vous nous en avez parlé un tout petit peu, là. Mais ces périodes-là, est-ce qu'il y a eu des incendies? Est-ce qu'il y a eu des destructions? On n'était pas sous les feux de la guerre à l'époque, mais est-ce que cette période-là a permis de récolter beaucoup de choses?
Alors,
beaucoup de documents en votre possession.
Oui. Alors, d'une part, j'évoquais tout à l'heure les administrations dans la guerre, les administrations traditionnelles, préfectures, etc., produisent des documents. Ça, c'est le gros des documents qui rentrent aux archives départementales. Donc, ils sont bien rentrés et puis ils ont échappé aux destructions ultérieures. Donc ils sont toujours là. Et effectivement, ils constituent la source première sur la période. Après, j'évoquais également les archives privées, donc les archives qui émanent de particuliers ou d'entreprises. Et c'est vrai que là, on a également des documents qui peuvent nous renseigner sur certains individus ou certaines activités. Lors des commémorations de 14-18, les archives départementales de l'Eure avaient participé à ce qu'on appelait la grande collecte, donc le recueil de documents concernant notamment les poilus. Donc on avait recueilli comme ça un certain nombre de carnets de poilus ou de correspondances qui éclairent la période de la guerre, mais aussi souvent cette période de la sortie de la guerre. Et puis on a également des fonds privés, alors je pense notamment à un petit fonds qui concerne Georges Veuclin, dont le nom ne vous dit sûrement pas grand-chose, qui vient d'une famille d'imprimeurs de Rugles, et qui devient mondialement connu dans les années 20, justement, puisqu'il est l'un des pionniers des radioémetteurs et de la transmission sans fil. Et il fonde un petit journal qui s'appelle le Journal des Huit, et dont la collection est conservée aux archives de l'Eure. Et donc, c'est une activité annexe, mais qui est documentée par les sources des archives.
D'accord. Alors, puisqu'on parle justement de, de ces nouvelles techniques. Quelles sont les découvertes ou les avancées technologiques qui ont eu un impact sur le département, sur les Eurois? Est-ce qu'il y en a ou pas? Ou est-ce qu'on est passé au travers de tout ça?
Donc, j'ai évoqué tout à l'heure la mécanisation des écureuils qui commence. Ce n'est qu'un début. La plus grande vague viendra plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le développement de l'automobile, qui était déjà présente avant-guerre, mais qui se développe beaucoup plus parce que ça devient le mode de transport principal, au point que les grands projets ferroviaires qui existaient avant-guerre tombent un peu à l'eau au profit de la route et de l'automobile. J'évoquais la radio qui devient quand même, alors pas pour tout le monde, puisqu'il faut quand même se payer le poste de radio, mais qui est utilisé et puis donc qui est également une sorte de hobby pour les amateurs éclairés comme Georges Voeckler que j'évoquais tout
d'accord.
à l'heure.
D'accord. Et puis il y a l'aviation aussi, puisque...
Bien sûr, oui, avec l'aéroclub d'Evreux qui est fondé à la fin des années 20, au début des années 30, je n'ai plus tout à fait la date exacte en tête.
Et qui deviendra la BA 105, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. La vie sociale et culturelle, comment on peut la qualifier à cette époque-là?
Elle reste celle d'un département qui reste un département, essentiellement rural. Donc elle se concentre surtout sur les villes, avec ce qu'on attend d'une ville de province, donc le théâtre essentiellement, et puis quelques cafés-concerts aussi qui apparaissent, notamment le Novelty. Qui apparaît dès cette période de l'entre-deux-guerres, qui est plus célèbre par certains concerts qu'il accueillit par la suite, mais il existe déjà dans l'entre-deux-guerres.
On arrive à la fin, je crois. À 100 ans d'intervalle, quelle comparaison, rapide bien sûr, peut-on faire avec notre époque?
Ça, c'est une question piège.
Ah non, je ne voulais pas que ce soit un piège.
Pour rester sur la question des technologies, c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information font aborder de manière complètement différente la question de la distance, de la distance-temps par rapport à Paris, par rapport au reste du monde. Non pas que l'heure était coupée du monde à l'époque, c'est pas du tout l'idée, parce que c'est faux. Mais je pense que ça serait vraiment le grand changement aujourd'hui,
d'accord.
De manière générale.
D'abord, merci beaucoup pour plein d'informations. Donc, avant de nous quitter, on rappelle vos coordonnées. Vous êtes aux 2 rue de Verdun, entre le tribunal d'instance et le tribunal de commerce, c'est ça?
C'est ça.
Voilà. Et votre site, c'est archive-heure.fr.
Archive.heure.fr.
Excusez-moi, archive.heure.fr. J'incite tout le monde à aller faire un petit tour sur ces sites-là qui sont foisonnant d'informations. Merci beaucoup, monsieur.
Merci à vous.
On dit qu'on est là des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Les grands arbres noirs. guettant les bras et le cœur battant des mois. À mi-voix, doucement je dis, emporte-moi.
Tes deux amours, ton pays est Paris. Pars toujours, ton cœur est ravi. Ta savane est belle, mais à quoi bon venir? C'est ton rêve joli.
J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Quelles sont les, à votre avis, quelles sont les découvertes ou les avancées ou les progrès qu'il y a eu à cette époque?
Je sais pas, le téléphone peut-être.
Ouais. Et puis?
Et puis, peut-être les réseaux téléphoniques, trucs comme ça.
Ouais.
Mais sinon, je vois pas.
Disons qu'avec la Première Guerre mondiale, quand même, les hommes sont beaucoup partis au combat. Donc, on a donné un rôle aux femmes un petit peu plus important. Et finalement, elles ont un peu gardé aussi ce rôle-là après. Donc l'envie de s'amuser tous ensemble, c'est arrivé je pense aussi à ce niveau-là. Donc peut-être un peu plus d'épanouissement pour les femmes, même s'il y avait encore beaucoup de choses à faire. On n'a toujours pas terminé d'ailleurs à ce niveau-là. On continue toujours aujourd'hui.
100 ans après. On
100 ans après, voilà. Il y a encore des améliorations à apporter, mais je pense que voilà, le débat continue. Et voilà, ça a pris sa source dans l'histoire. Peut-être que les années 20 est un exemple aussi d'émancipation de la femme et, qui s'est poursuivi par la suite. Et voilà, aujourd'hui c'est encore un sujet d'actualité.
Et sur le plan technologique, est-ce que entre il y a 100 ans donc, presque 100 ans, et maintenant
Maintenant il y a beaucoup plus les téléphones. Enfin, avant il n'y avait pas les téléphones que maintenant il y a. Et puis les gens sont beaucoup plus connectés du coup par rapport à il y a 100 ans.
L'iPhone peut-être, non? C'est pas ça? Non, je vais tout vous mélanger, je
d'accord,
crois.
D'accord.
Bah,
ouais. D'accord.
Je pense qu'il y a dû y avoir l'électricité, la lumière, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu, le cinéma, je pense. Le cinéma, la télévision, je pense, peut-être pas tout à fait, mais qu'est-ce qu'il y a eu encore, l'automobile, exact. L'automobile, les avions, après le téléphone aussi, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a encore eu
La radio.
La radio, ça c'est oui. Et puis,
Je pense au Bauhaus, notamment, à l'architecture qui nous vient des pays que l'on sait, l'Autriche, etc. Je crois que toute la Terre, enfin tout le monde renaissait, donc ça a donné peut-être, un allant nouveau, on avait envie d'autre chose, on avait envie de vivre, on retrouvait le goût de vivre, je crois.
C'est ça?
Oui.
Le cinéma parlant, oui. Avant, oui. C'était le cinéma muet, donc ça a dû arriver dans ces eaux-là aussi, je pense. L'électricité, la télévision, le cinéma, la voiture, tout ça, quoi, en fait.
À présent, je vais vous parler du cinéma muet, puis parlant. À cette époque, en 1919, les films venus des États-Unis représentent 90% des projections réalisées dans les salles en Europe. Le cinéma muet a été l'expression marquante et fascinante des trois premières décennies du XXe siècle. Cette curiosité visuelle baptisée cinématographe est devenue le septième art. Le cinéma burlesque, avec le maître incontesté Charlie Chaplin et aussi Buster Keaton, et plusieurs autres acteurs, fait beaucoup parler d'eux. Mais la plupart de ces acteurs, qui s'étaient construits un univers au sein du cinéma muet, disparaîtront des écrans lorsque le cinéma parlant viendra remplir les salles obscures. Seuls, Charlie Chaplin et Laurel et Hardy survivront à l'arrivée du parlant. Expérimentés dès l'invention du cinéma, les techniques sonores ne commencent à être exploitées qu'au milieu des années 1920. Le premier film parlant, chantant, et musical qui sort est Le chanteur de jazz aux États-Unis le 6 octobre 1927 et réalisé par Alan Crosland avec en vedette le comédien Al Johnson. Le son y est de manière rudimentaire. Il marque le début de la révolution du parlant. En fait, le passage du muet et du parlant se situe en 1927, année du jazz, et le début des années 30. Mais, en 1910, Léon Gaumont, avec son chronophobe, met au point et exploite le cinéma sonore avec un parfait synchronisme image-son. L'histoire aura quand même retenu l'année 1927 et les États-Unis comme point de départ du cinéma parlant. Et je pense à ces vedettes comme Marlène Dietrich, Greta Garbo, Denise Gray, Claire Gable, cette très grande star au box-office au début du cinéma parlant. Mais j'ai envie de vous parler aussi de Rudolph Valentino. Rudolph était beau, jeune, célèbre, le tombeur de nos grands-mères ou arrière-grands-mères. Avec son aura sensuelle et ténébreuse, les femmes raffolent de lui. Et lui raffole des femmes. Il parle italien, français, anglais, mais perce dans le cinéma muet. Arrivé à New York en 1913, il apprend la danse. Ses talents lui permettent de décrocher plusieurs petits rôles au cinéma, à Hollywood, avant de se révéler totalement. Rudolph jouera dans une trentaine de longs métrages. 5 d'entre eux contribueront à créer la légende en 1921. Il se révélera totalement dans le film « Les 4 cavaliers de l'Apocalypse » avec Alice Terry, puis plusieurs films jusqu'en 1926. Le cinéma parlant arrivera un an après sa disparition. Il n'avait que 31 ans. Près de 80 ans après sa mort, un de ses films, Beyond the Rock, avec Gloria Swanson, considéré perdu, est retrouvé chez un collectionneur privé des Pays-Bas. Il sera projeté pour la première fois au Festival de Cannes en 2005. Voilà, cette parenthèse sur le cinéma de ces années-là se termine, en espérant que vous aurez apprécié ce voyage dans le temps.
À votre avis, comment vivaient les gens à cette époque-là ?
Il me semble que c'était plus les hommes qui travaillaient, les femmes qui restaient à la maison, qui s'occupaient des enfants, qui faisaient le ménage, à manger.
C'est vrai qu'on est à la sortie de la Première Guerre. Toute l'évolution du 19e siècle, beaucoup de vie en ville, mais quand même une vie peut-être un peu plus rude en campagne, je dirais quand même. Ouais. Mais voilà, quand même un développement de l'art et de la culture, principalement dans les centres urbains. Mais je pense que j'imagine que voilà, la vie en campagne devait être pas forcément être évidente à ce moment-là.
Justement, c'est pour ça que j'ai parlé du Bauhaus. Je pense à l'architecture, à... voilà. Enfin, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Autrement, mon Dieu, je ne sais pas. Plus légère, non.
Justement. Vous pensez vraiment
entre deux guerres. Écoutez, j'imagine. Parce que très sincèrement, je n'ai pas une. Vous me prenez de court, hein. Je n'ai pas une grande culture de cette période en particulier, mais en règle générale, je pense que l'entre-deux-guerres a été une période bénie, où on avait, c'était le moment de tous les possibles, on renaissait, on prenait goût à la vie, enfin voilà. Enfin, pour moi, c'est
alors ça. Moi, je vais vous dire quelque chose que j'ai certainement entendu de la bouche de mes parents, que c'était les belles années, les années folles, mais pour les gens qui avaient de l'argent. Non, mes parents travaillaient beaucoup, c'était commerçant, on se voyait peu, c'est ma grand-mère qui m'élevait, et donc... On n'avait pas beaucoup de conversations.
Beaucoup
en fait.
Plus simple qu'actuellement. Peut-être moins de soucis, moins de tracas, moins de stress en fait. Je pense, oui, la vue était sûrement plus rude, mais moins stressante qu'aujourd'hui.
Il y a 100 ans, les années 20. La Grande Guerre est terminée depuis 2 ans, la paix est signée depuis 1 an, la vie quotidienne des Français a repris bon an mal an. Cette décennie va s'appeler les années folles. Commençons par les femmes. Elles ont remplacé les hommes... pendant toute la guerre, c'est-à-dire 4 ans, dans les fermes, les champs, les usines et les commerces. À la fin de la guerre, les bras manquants, elles restent donc en place dans les champs, mais ailleurs, elles doivent laisser leur place. Le vent de liberté qu'elles avaient senti pendant 4 ans est fini. Il faudra attendre des décennies pour qu'elles reprennent les manettes. Pour la mode, c'est un peu différent. Des grands couturiers vont balayer l'ancien monde et modeler un nouveau look pour les femmes. Le corset est enlevé, les vêtements de sport apparaissent, les tissus sont coupés dans le biais, les sous-vêtements sont conçus pour être confortables, les cheveux sont coupés courts à la garçonne et le blond platine fait fureur chez les artistes. Il en est de même pour le mobilier. L'art déco succède à l'art nouveau. En réaction au style exubérant, floral, aux courbes ondoyantes, l'art déco revient aux formes géométriques, symétriques, simplicité et sobriété. Les domaines scientifiques font des avancées fondamentales. Ian Fleming, écossais, découvre par hasard en 1928 la pénicilline. La majeure partie des maladies infectieuses va être éradiquée avec la production d'antibiotiques introduits dans les thérapies en 1941. Le vaccin du BCG est mis au point en 1921 et combat la coqueluche et la tuberculeuse, maladies mortelles. La chirurgie fait, elle aussi, des avancées en liaison directe avec la Grande Guerre et les cales cassées et la chirurgie réparatrice. Dans le domaine psychiatrique, des maladies telles que les traumatismes post-traumatiques sont découvertes et étudiées. L'aviation se développe à grande vitesse. À Évreux, un aéroclub est créé en 1913 aux alentours du Coudray. Il devient aérodrome après la guerre, forme des pilotes et sera très vite une tête de pont lors de la Deuxième Guerre. Il s'agit bien sûr de la BA-105. Mais toutes ces avancées, et en liaison directe avec la Grande Guerre, la France a des difficultés à se relever. 6 départements du Grand Est sont totalement dévastés. Plus de maisons, plus de champs à labourer, plus de population pour y habiter. Plus d'1,5 million d'hommes sont morts au combat. La démographie du pays est en déclin. On manque de bras et de bébés. Pour remédier à cet état de fait, plusieurs mesures. On fait appel à l'immigration pour accueillir 1 million de personnes. Polonais, Belges, Italiens, Portugais viennent travailler et repeupler la France. Une loi radicale va perdurer pendant plus de 50 ans et votée en 1921 pour inciter à faire des enfants. Pénalisation de l'avortement. Dans le domaine social, quelques timides lois sur l'assurance vieillesse, maladie et invalidité sont votées en 1928 pour certains secteurs d'activité seulement. Tout sera remis à plat en 1945. Certains pays ont une forte croissance, tels les États-Unis. La décennie des années 20 se termine en 1929 par un crash boursier venant déjà des USA et mettant un frein brutal au développement. Le monde aborde une période troublée, angoissante et préfigure l'embrasement de la planète. Mais ceci est une autre histoire.
C'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, me passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai, on dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai, lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je serais pas Miss Baguette si j'étais pas comme ça. Que c'est bon quand on vient d'Amsterdam et qu'on a vu pendant des mois des tas de pays, de retrouver le macadam de Paname, ses autobus et son métro et ses taxis, Paris et ses boulevards avec tous ses bobards. On dit que j'ai de grandes connotes, que je n'ai que 3 notes. C'est vrai. On dit que j'aime jouer les arpètes, les marchandes de violettes. C'est vrai. Mais ne voulant pas chipper aux grandes coquettes, leurs dames aux camélias, moi je vends mes bégonias. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. On dit, quand je fais mes emplettes, quand je paye pas ce que j'achète,
c'est vrai.
On dit, partout et l'on répète que je lâche pas mes pépettes. Mais si elle faisait comme moi pour sa galette, Marianne n'aurait pas un budget aussi bas. Et si l'on mettait à la tête des finances distinguettes, on n'en serait pas là.
En 1920, le téléphone fixe était un signe de modernité. Le téléphone privé est assez rare. Il appartient à une classe sociale élevée. Il est surtout installé dans les cafés et hôtels-restaurants. Son usage se développe essentiellement par des téléphones publics installés dans les bureaux de poste. Aviation. Au printemps 1927, c'est la première traversée de l'Atlantique en solitaire à bord du monoplan Spirit of Saint-Louis, chargé de 1700 litres de carburant. Charles Lindbergh décolle de New York le 20 mai à 7h52 et atterrit le 21 mai à 22h22 au Bourget, au milieu d'une foule en liesse de 300 000 personnes. Littérature. Colette, en 1923, écrit Le blé en herbe, titre d'un roman audacieux et anticonformiste, publié en 1923, c'est l'histoire d'amour de deux adolescents parisiens en vacances au bord de la mer à Saint-Malo. Sport. 1920, ce sont les Jeux Olympiques à Anvers. 1924, à Paris, à noter, juste 100 ans après, les Jeux Olympiques auraient lieu de nouveau à Paris. En 1928, les Jeux Olympiques sont à Amsterdam, où pour la première fois, les épreuves d'athlétisme sont ouvertes aux femmes. Faits divers. 1920-1923, procès Landru. Landru attire les femmes, extorque leurs bijoux et leurs économies, les assassinent et brûlent leurs corps dans sa cuisinière à charbon. Cela se passait à Vernouillet, Seine-et-Oise et à Gambet dans les Yvelines, non loin d'ici. Grand point d'honneur pour les femmes de paysans. Elles, qui étaient toujours reléguées au deuxième plan, ont su remplacer courageusement le manque d'hommes dans les campagnes, aux travaux des champs et à la ferme. Car la perte en hommes durant la guerre de 14-18 est évaluée, d'après un dictionnaire de la Grande Guerre, entre 500 et 700 000 morts dans le monde paysan. Plus de 3 millions d'hectares de terre sont laissés en jachère, ce qui explique l'arrivée de nombreux paysans belges, victimes eux aussi de l'invasion des troupes allemandes dans les Flandres. C'est principalement en Normandie qui se sont installés. Leur arrivée était souvent organisée par des notaires à la demande des propriétaires.
Bonjour, moi je voulais surtout vous parler des femmes. Alors les femmes, à cette époque-là, elles commencent à s'émanciper. Ce sont les années folles. Et on va retrouver les lignes sobres de ces femmes sur les affiches de l'exposition des Arts Déco en 1925. « Dans la vie, faut pas s'en faire », chante Maurice Chevalier. « Elles ne s'en font pas, celles qui, nées avec le siècle, se livrent à corps perdu à la jouissance, après le naufrage des valeurs d'abstinence et d'économie. Les garçonnes, affranchies, aux jupes et aux cheveux courts, parfois en pantalon, fument, conduisent, dansent le Charleston avec frénésie, sous l'œil sévère des anciens combattants. Les robes dévoilent les jambes qui commencent à être épilées. Les femmes commencent à vernir leurs ongles des pieds. Et le maquillage n'est plus réservé aux femmes de mauvaise vie. Sous le chapeau cloche qu'elles portent, eh bien, on voit les yeux charbonneux et la bouche éclatante. Ces femmes ne se contentent peut-être... Excusez-moi. Elles voudraient aussi avoir plus de liberté dans tous les domaines. Et... Eh bien, en particulier, nous sommes dans une période de lutte. Ben, je voudrais vous parler de la lutte des sardinières de Douarnenez. C'est la première lutte de femmes ouvrières. Hein. Pendant 7 semaines, elles font la grève, réclamant une augmentation de 50% de leur salaire. La lutte commence en 1924. En 1925, le gouvernement cède. Quelques mois plus tard, Joséphine Pancalé est la première femme à être élue conseillère municipale. Mais cette élection est annulée car les femmes étaient non éligibles. Voilà. Excusez-moi. Ce nouveau monde qui se prépare n'était peut-être pas le meilleur auquel elles aspirent, ces héroïnes. L'embellie dans la graiserie de l'oubli est courte avant les sombres années 30. Certes, les distractions, la mode, les mœurs ont évolué. Le corps des femmes, débarrassé des entraves, a gagné en liberté de mouvement. Mais à celles qui réclament le droit de vote, on répond que leur devoir est de faire des enfants plutôt que de la politique. Et je vais vous annoncer maintenant une interview qui a été faite à la maison Azemia. Une dame de 99 ans, si j'ai bien compris, a répondu aux questions de notre ami Guy.
Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose de votre enfance? Si c'était bien, si c'était mieux, si c'était plus difficile?
Non, c'était très bien, oui. Puisque mes parents étaient musiciens, mon père violoniste, ma mère pianiste, et j'ai un frère qui jouait du saxophone.
Bon.
Et on avait une belle famille, tous gentils, agréables. Voilà. Oui, avec des parents musiciens, vous savez.
Ben oui, c'était un privilège.
C'était bien.
Mais au point de vue de la vie courante, est-ce que c'était plus difficile, plus agréable?
Non, c'était agréable.
Oui.
Moi, j'ai toujours trouvé agréable. Tout agréable. J'avais des sœurs gentilles, des frères gentils. Tout le monde était gentil, et même des voisins. Même des voisins gentils.
Et par rapport à maintenant,
C'est pareil.
C'est pareil pour
vous? C'est pareil. Les gens sont si gentils, je ne vois pas de changement.
Ben c'est bien, parce que...
Oui, tout le monde est agréable et gentil.
D'accord.
Et ça a toujours été. Ça sera toujours.
Parce que vous savez, il n'y avait pas la télévision à l'époque.
Non, mais enfin, il y a longtemps. Hein,
oui, mais bon, c'est de ça qu'on parle, d'il y a longtemps.
Oui, d'accord.
Il n'y avait pas la télévision?
Non.
Qu'est-ce que vous faisiez le soir?
Le soir, j'étais avec mes parents, on discutait, faisait des jeux, voilà.
Vous vous ennuyez pas le soir?
Oh non, pas du tout. C'est jamais ennuyé.
Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours la télévision.
Oui, d'accord, mais pas toujours, moi.
Non, pas toujours. Beaucoup de gens...
Oui, ça dépend du monde.
Est-ce qu'il y avait de l'électricité? De l'électricité, de la lumière?
Ah oui.
Déjà?
Ah oui, bien sûr.
D'accord.
Ah oui. Oui, je suis née en 1920.
Bien.
Alors, Non, pas encore.
1920, vous êtes née en 1920.
Oui,
c'est
voilà.
Déjà ça. Bon.
Et du coup, à cette époque-là, vous étiez habillée comment?
Comme aujourd'hui, avec des petites jupes. Voilà, bien.
Parce que la mode, elle a changé quand même dans les années 20, juste après la guerre.
Oh, mais vous savez, on s'habillait comme on voulait. Hein.
Oui.
C'était ça a toujours été. Hein.
Mais à cette époque-là, vous n'aviez pas le droit aux pantalons.
J'en ai jamais mis.
Et voilà.
Bien.
J'en ai jamais mis. Et non. Mais ça ne m'intéressait pas d'en mettre.
Non.
Non, j'aimais mieux les jupes, les robes. Je trouvais ça
plus élégant.
Joli pour une dame.
D'accord. Voilà. Mais vous n'aviez pas de collant à cette époque-là. Les banilons, ils n'existaient pas.
Non, on mettait des chaussettes.
Vous mettiez des chaussettes. Eh oui.
Oui, c'est vrai.
Et au niveau des chaussures, elles étaient comment les chaussures à cette époque-là?
Oh, ben, ça a toujours été un peu normal, vous savez, les chaussures.
C'était pas des galoches?
Oh non, moi j'ai pas connu les galoches.
Vous avez jamais porté de galoches?
Ah, jamais.
D'accord.
Non.
Bien.
Jamais.
Et alors, est-ce que vous, quand vous sortiez, est-ce que vous étiez obligé de mettre un chapeau dans cette, à cette époque-là, on mettait des chapeaux?
Bah, vous savez, il y en a quand même. Moi, ma grand-mère, mais moi, j'en ai jamais mis.
C'est vrai? Vous n'avez jamais mis de chapeau?
Jamais.
Non.
Un béret, oui, mais pas de chapeau.
Ah, vous mettiez un béret quand même?
Petit béret, on en mettait.
Oui.
Mais je n'aimais pas tellement.
D'accord, parce que alors... ça vous décoiffait.
Voilà, vous êtes... Moi, je vous trouve très bien, parce que vous êtes gay.
Ah oui, mais ça a toujours été.
Et ça, c'est... Et c'est pour ça que vous trouvez les autres gentils aussi.
Ah, oh, mais tout le monde a toujours été très gentil avec moi. Ben... J'habitais là, sur le Pas-de-Calais, et à côté de chez moi, c'était des coiffeurs.
Voilà.
D'accord.
Ils étaient très gentils, ils venaient me voir, je les invitais à manger, on mangeait ensemble, on sortait, toujours une vie comme ça.
Et à cette époque-là, vous aviez les cheveux longs ou les cheveux courts?
Comme aujourd'hui.
Déjà courts. C'est rare que les femmes avaient les cheveux courts.
Oui,
hein.
Déjà, c'était comme ça. J'aimais bien.
Oui, oui. Il y a des choses qui manquaient encore.
Non, je m'en rappelle pas.
Vous en rappelez pas? Vous avez pas souffert du manque de repas, ni quoi que ce soit?
Non, du tout, du tout.
Non.
Seulement pas.
Oui, oui.
Non, toujours été heureuse. Une vie formidable et des gens gentils. Ma famille adorable.
Voilà. Après, comme votre papa, il était musicien. Donc
oui, il était violoniste.
Donc, il vivait de la musique, votre papa?
Oui.
Ouais, donc du coup, il avait déjà peut-être des moyens supérieurs aux autres.
Bah, on avait un magasin aussi à Lens, on avait été Lens.
Un magasin de quoi?
De musique.
De musique.
Ah bah oui, il y avait des violons, saxo et tout ce qu'ils en faisaient.
D'accord. Voilà. Et c'était votre papa qui tenait le magasin de musique?
Oui, mais moi j'étais jeune, j'aidais aussi.
D'accord.
Voilà.
Et ouais. Et vous avez été jusqu'où? Vous avez quoi comme études, vous?
Moi j'ai été... certificat d'études et j'ai fait un an de cours supérieur. Mais après, ma maman avait besoin de moi, alors elle m'a gardée.
Eh oui, vous avez été obligée d'arrêter après.
Ah bah oui, bien sûr. Continuer, mais...
Oui, oui.
Hein, on fait ce qu'on dit nos parents quand même.
Surtout, oui.
J'avais des parents très gentils, alors...
Et après, vous avez travaillé?
J'ai travaillé, non pas spécialement, je suis restée avec mes parents.
Vous? À les aider. Et quand vous êtes mariée, vous avez eu un travail quand vous vous êtes mariée?
Non.
Non, vous avez élevé vos enfants?
Voilà, exactement.
Vous en avez des beaucoup d'enfants, vous? Vous avez combien d'enfants?
Attendez, j'en ai deux, trois, quatre.
Quatre enfants?
Ouais.
Donc oui, vous les avez élevés?
Mais voilà.
Et est-ce que vos enfants sont musiciens?
Oui, il y en a.
Il y en a,
du coup. Il y a des musiciens. Mmh. Oui, j'ai une sœur qui est musicienne.
Ouais.
J'aime bien la musique.
Et vos enfants?
Elle habite Nice, ma sœur.
Votre sœur, elle habite Nice. Et vos enfants à vous? Ils font de la musique, vos enfants à vous?
Mes enfants, non, pas beaucoup.
Non.
Non. Non, ils chantent, ils font un peu de... Enfin, voilà.
Vous êtes mariée à quel âge, vous?
Attendez, moi je me suis mariée, j'avais 21 ans, je crois.
D'accord.
Oui, voilà.
Donc, dans les années 40.
Oui, voilà.
Ouais.
Voilà,
ouais.
Voilà, voilà.
Et
voilà.
Vous avez rencontré votre mari où?
Où j'habitais, à Lens.
Oui, et vous l'avez rencontré comment?
C'est-à-dire que on avait un magasin de musique et il venait pour acheter des... Et c'est comme ça que je l'ai connu.
D'accord. Alors, vous n'avez pas rencontré votre mari au bal?
Non.
Bah ça alors, c'est rare, hein?
Non, pas au bal.
C'est rare. Vous l'êtes mis quand même dans un magasin de musique.
Oui, voilà, exactement. Ah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Hein,
certainement.
Et puis, il était très gentil.
Et bon.
Puis, j'ai eu des beaux enfants.
Eh ben, c'est merveilleux, alors. Voilà. Ben voilà, quand vous n'étiez pas au magasin, qu'est-ce que vous faisiez comme loisir? Qu'est-ce que vous faisiez comme autre chose que de...
Ben, je dessinais.
Ouais.
Je faisais des dessins.
D'accord.
Voilà.
Faisiez... Je
faisais comme ça.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'était, les, c'était votre passe-temps de
mais,
faire du dessin?
Oui, j'aimais bien, puis je dessinais bien.
Eh oui, oui. Eh oui, eh oui. Madame Boudet, elle est rentrée chez nous il y a un an et demi maintenant,
mais
peut-être
environ.
Oui, oui. Et Madame Boudet, elle vivait seule chez elle. Vous habitiez sur la Madeleine, vous, hein?
Oui, voilà.
Elle habitait seule chez elle. Et quand elle est arrivée chez nous, Madame Boudet, elle était en fauteuil roulant. Voilà. Et pas très en forme, voilà. Non, et non. Voilà, depuis qu'elle est chez nous, voilà comment elle est.
Oui. Donc... bah, vous êtes tellement gentille que c'est vrai, ça fait du bien. Hein.
C'est ça.
Je comprends.
Elle participe souvent aux animations, ce genre de choses.
Oui,
alors
oui,
du coup,
toujours,
voilà, ça permet de...
Puis vous aussi, vous êtes agréable.
Ça permet de maintenir, voilà,
merci,
plein de choses.
Tout le monde est gentil.
Un compliment qui me fait plaisir.
Très agréable, et beau. Voilà, et la dame, belle et gentille.
C'est sûr.
Voilà.
Oui.
Et à présent, avant de passer en 2020, je vous propose pour cette dernière bonne nouvelle 2019 de la douceur et du rêve. La sortie d'un CD de Tony Kimball, label Origine, la légende d'Orida. Avec cette légende, laissez-vous transporter par l'une des plus envoûtantes légendes de l'histoire. Véritable ode au voyage, ce précieux élixir musical plonge celui qui l'écoute dans un profond songe d'un autre temps. Les yeux fermés, l'instant vous appartient. Capturé dans un écrin de Cachemire, le ruissellement des vagues le long des côtes s'exprime à travers le vent et la brume, pendant que les chuchotements magiques de la forêt deviennent évidence. L'épopée magique s'emporte alors au rythme puissant des cornemuses qui semblent résonner depuis toujours dans le cœur des hommes. Délicieux voyage initiatique au cœur des mythes celtiques. Reconnaîtrez-vous cette ancienne légende, berceau de notre culture? Souvenir d'une mémoire commune. Chers auditeurs, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Que la joie et le bonheur habitent vos cœurs.
Et voilà, c'est la fin de l'émission. Vous venez d'entendre Sylvie, Marie-Claude, Guy et Demichel. Après 1920, rendez-vous en janvier, le jeudi 16, pour connaître l'avenir. En 1120, vous avez bien entendu, 2120. Et oui, et nous on sait. À bientôt, mais en attendant, amusez-vous pour les fêtes et vous pouvez, mais avec modération. Bonne année et à l'année prochaine.
Vous auriez aimé vivre à cette époque-là?
Bah ouais, pour voir comment c'était, pour la découverte quoi.
Pour la découverte, ouais, ouais. Mais au quotidien.
Au quotidien, bah pas trop parce que du coup les femmes elles avaient pas trop le droit de faire des choses et du coup bah c'est sûr que maintenant du coup nous on connaît le moment présent de comment sont les femmes maintenant que avant on sait pas trop du coup on peut pas trop savoir
Mais donc en fait si vous aviez une machine à remonter le temps simplement pour aller voir
bah oui c'est sûr bah, parce que c'est curieux enfin pour savoir forcément comment c'était comment ça se passait et tout.
Ouais, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents peut-être
ouais, pour
aussi.
Voir nos générations passées, pour savoir comment ils étaient.
Et cette période-là vous rappelle quel grand nom célèbre pour vous, que ce soit aussi bien dans le music-hall, comme écrivain.
Edith Piaf, il y a eu, De Gaulle, il y a eu Clémenceau. Après, il y a eu le premier président de la République, Coty.
Non, ça c'était plus tard.
Plus tard, Coty. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme écrivain Victor Hugo.
Non.
Non. Colette. Proust.